Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe suite à l'interdiction de l'ONG People in Need en Russie. Soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat terroriste, un ressortissant slovaque a été condamné à 6 ans et demi de prison par un tribunal pragois. Et puis en foot, les Tchèques se sont qualifiés pour l'Euro 2020. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe suite à l'interdiction de l'ONG tchèque People in Need en Russie. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Martin Povejshil, a exprimé son inquiétude par rapport à la décision des autorités russes, a fait savoir le site du ministère. En voyage en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, a également déclaré que la diplomatie tchèque allait prendre des mesures au niveau international. La plus importante organisation humanitaire d'Europe centrale a été classée le 7 novembre dernier par le ministère russe de la Justice parmi les ONG qui ne peuvent plus travailler dans le pays. Soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat terroriste, un ressortissant slovaque a été condamné à 6 ans et demi de prison par le tribunal municipal de Prague, expulsé de République tchèque pour une durée indéterminée. Dominik Kobulnitsky se serait converti à l'islam en 2015 et avait, selon les enquêteurs, partagé sur sa page Facebook du contenu faisant la promotion de l'organisation de l'État islamique ainsi que de l'émirat du Caucase. Les policiers avaient découvert chez lui des produits chimiques permettant de concevoir des explosifs ainsi que des vidéos expliquant comment fabriquer une bombe. Le suspect a toujours nié toute intention terroriste et a réaffirmé au tribunal avoir voulu produire des feux d'artifice en vue de la Saint-Sylvestre. Le Sénat accueille aujourd'hui, ce vendredi, de nombreuses personnalités tchèques dans le cadre d'une grande conférence consacrée aux 30 ans de la démocratie retrouvée suite aux événements de novembre 1989 qui ont conduit à la chute du communisme. Les changements survenus depuis dans les médias, la politique, l'architecture, les technologies et même la gastronomie sont au menu des discussions dans le cadre de différents panels au palais Wallenstein. La République tchèque s'est qualifiée jeudi soir pour l'Euro 2020 de foot en battant à domicile le Kosovo 2-1. La Reprezentace s'est tout de même fait une petite frayeur à la 50e minute suite à l'ouverture du score par la jeune sélection kosovare. Mais les hommes de Jaroslav Chilhavi ont redressé la barre à la 71e et 79e minute. Si le Kosovo a dû dire adieu à son rêve d'accéder à la première phase finale de son histoire, les Tchèques, eux, vont participer à leur 7e Euro d'affilée. Et puis, à noter que l'Institut hydrométéorologique tchèque a émis un bulletin d'alerte aux rafales de vent dans plusieurs régions du pays, notamment sur les sommets et notamment dans les Krkonoše ou Mont des Géants au nord de la République tchèque. En montagne, les vents pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h et en plaine jusqu'à 70 km/h. La neige est également de la partie depuis quelques jours sur les crêtes des Monts des Géants en plus des rafales de vent. Les services de haute montagne ont lancé un appel aux potentiels touristes et randonneurs à reconsidérer leurs excursions en région de conditions météorologiques difficiles. Cette information est une transition toute trouvée pour vous parler de la météo de ce samedi, jour de fête des Hautes-Mares. Ciel chargé malgré quelques éclaircies et des températures moyennes maximales autour de 11 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Mais oui, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute du programme en français de Radio Prague International avec Alexis Rosenzweig au micro pour vous présenter ce programme exceptionnel avant un week-end exceptionnel sur nos ondes. Il sera question évidemment des commémorations du 30e anniversaire de la Révolution de velours. Ce sera le dernier épisode de notre série consacrée aux places, aux lieux importants dans la capitale tchèque qui concernent cette Révolution de velours. On ira aujourd'hui sur le balcon de la maison Melantrich. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, ce sera l'entretien réalisé avec Pavel Fischer, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2017 et ancien ambassadeur tchèque en France. Il nous parlera, lui aussi, de 1989. Et à Prague, tout commence et tout finit sur la place Venceslas. En tout cas, c'est ce qu'on dit souvent. S'il existe un lieu précis sur cette place centrale et emblématique de la capitale, particulièrement lié à la Révolution de velours de 1989, Eh bien, c'est le bâtiment de l'ancienne maison d'édition Melantri. Depuis son balcon, le futur président Václav Havel s'est adressé pour la première fois au public lors de la manifestation du 21 novembre. Cette date marque aussi le comeback extraordinaire de la chanteuse Marta Kubišová, interdite de concert pendant 20 ans. C'est au balcon le plus célèbre de la capitale tchèque que nous consacrons que Magdalena Hrozinková consacre la dernière étape de notre série intitulée « Sur les traces de la révolution de velours ».
Devant quelques 200 000 personnes réunies sur la place Venceslas, précisément 5 jours après la répression de la manifestation du 17 novembre, Marta Kubišová a donc chanté sa prière pour Marta. Ce moment, l'un des plus émouvants de la révolution de velours, est entré dans l'histoire, ainsi que le balcon de l'immeuble Melantri, sur lequel se sont succédés le 21 novembre, ainsi que les jours suivants, Václav Havel, Alexander Dubček ou encore Karel Kryl et Karel Gott, qui ont chanté ensemble l'hymne tchécoslovaque.
Kde domov můj, kde domov můj, voda hluší, poučí
nás. Rocker proche des milieux dissidents et en politique après 1989, Mikhail Kotsap fait partie des personnalités qui ont fondé lors des premiers jours de la révolution le forum civique Občanské forum, devenu la principale force d'opposition anticommuniste. Et d'après Mikhail Kotsap, c'est précisément sur le balcon Melantri que Václav Havel est devenu le leader de cette révolution tchécoslovaque.
On přirozeně jim byl, ale museli to uznat také naši občané, že jo. A on tehdy řekl, že občanské forum...
Václav Havel s'était profilé comme un leader naturel avant même cette manifestation, mais il fallait encore que nos concitoyens l'acceptent. Dans son premier discours devant les manifestants, il a dit que le forum civique était un mouvement intérimaire, créé spontanément pour représenter tous les citoyens mécontents. Il a dit aussi, et c'était là un coup génial, que tout un chacun pouvait adhérer à ce mouvement. Du coup, le forum civique a compté des centaines de milliers, voire même des millions de membres.
C'était vraiment génial, parce qu'à ce moment-là, le občanské forum avait 100 000, ne pas millions de personnes.
Le 21 novembre 1989, rien n'était encore gagné pour le Forum civique qui essayait seulement d'entamer un dialogue avec les autorités communistes. Par ailleurs, Václav Havel lui-même a introduit sa courte intervention par ses propos « J'espère qu'on ne nous coupera pas le courant électrique ». Comment donc un groupe de dissidents est-il parvenu à accéder au balcon d'un immeuble où se trouvait une maison d'édition et les rédactions de plusieurs titres de presse, dont le journal Svobodné slovo, la libre parole, considéré en son temps comme une source fiable d'information. Mikhail Kotsap se souvient.
Jak to zařídit, jak sehnat ozvučení, odkud vystoupit. Tehdy to navrhnul...
La veille encore de cette première grande manifestation sur la place Venceslas, nous ne savions pas d'où nous pourrions nous adresser au public. Nous devions aussi résoudre plusieurs problèmes techniques, à savoir par exemple comment diffuser le son. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jan Škoda, le secrétaire général du Parti socialiste tchécoslovaque, auquel appartenait le journal Svobodné slovo, a décidé de nous laisser entrer dans le bâtiment Melantri. Pour nous tous qui étions réunis sur le balcon, c'était comme un rêve. Nous sommes partis de rien. Nous nous souvenions encore du silence de la société à l'époque de la normalisation. Et nous voilà d'un seul coup devant 200 000 personnes. Nous avions tous le trac, y compris Václav Havel. Il était certes un bon organisateur et tenait à ce que tout se passe comme prévu, comme une représentation théâtrale. J'avais une grande admiration pour Václav Havel. Il était déjà un dissident mondialement connu au moment de la Révolution. C'était quelqu'un de chaleureux, de sympathique et il dégageait de l'espoir. On avait l'impression qu'avec lui, on ne pouvait pas perdre. Mais en même temps, nous n'étions pas certains qu'il puisse convaincre les masses avec son côté timide et son élocution légèrement hésitante. Finalement, il y est parvenu.
Se nedělá, nikam cestu měl.
Ce dimanche 17 novembre, les Pragois se réuniront à nouveau sur le balcon Melantrich pour écouter la prière pour Marta, interprétée cette fois par Aneta Langerova, une voix qui n'est pas sans rappeler celle de la légendaire Marta Kubišová.
On passe à la deuxième partie de notre émission avec un entretien spécial. Candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2017, ancien ambassadeur tchèque en France, Pavel Fischer remplit désormais depuis un an les fonctions de sénateur sans étiquette, conseiller de Václav Havel lorsque celui-ci était président. Pavel Fischer est aussi le père de trois enfants, tous étudiants, comme lui-même l'était en 1989, et qu'il accompagnera ce samedi à la grande manifestation prévue à Prague pour réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babiš. C'est aussi en compagnie de ses enfants que Pavel Fischer a récemment visité l'exposition du photographe Jan Šibík qui retrace les grands moments de 89 et des grands moments qui ont changé la face de l'Europe. Comme l'a confié Pavel Fischer au micro de Guillaume Narguet, il a été surpris de se voir apparaître sur une des photos datée du 28 octobre 1988, jour de manifestation contre le régime communiste.
Cette photo m'a beaucoup ému parce que j'ignorais qu'il y avait des photographes autres que les photographes de la police secrète de l'époque. Et c'était amusant parce que j'ai pu aussi revisiter cet événement, cette période, et d'autant plus que j'ai pu le faire avec les miens. L'autre jour, mon papa est même revenu sur place. Et j'ai senti qu'il m'accompagnait à l'époque, même si je transgressais un peu les lois de prudence familiale, et qu'il me soutenait encore aujourd'hui. Donc oui, mes enfants, en regardant cette photo, ont dit « Allez papa, on va à la manif avec toi maintenant et tu nous accompagnes ».
Ils étaient fiers de leur papa ?
Je crois qu'ils étaient fiers et de plus ils ont dit « On veut porter tes habits de l'époque, donc ils vont sortir des armoires les choses un peu historiques ».
Donc cette photo remonte à 1988. À l'époque, vous étiez étudiant, vous faisiez des études de français notamment à la faculté de lettres de l'université Charles. Est-ce qu'à l'époque, vous pouviez imaginer les changements qu'il y aurait un peu plus d'un an plus tard ?
Aucunement. À l'époque, on était là, on était cloisonnés, on était en train de lire l'Humanité. Et encore, le quotidien communiste français était parfois trop libéral pour les communistes tchèques de l'époque, donc il fallait quand même le censurer également. Non, c'était une période sombre pendant laquelle il fallait trafiquer la bonne littérature, les bons films. Il y avait un vrai combat pour la liberté. Je constate que ce combat reste d'actualité encore aujourd'hui parce que Pour la liberté, il faut s'engager aussi aujourd'hui pour la liberté de nos institutions, de nos vies, par rapport à la production industrielle des fake news qui nous sont projetées sur notre espace public par des acteurs parfois extérieurs à notre démocratie. Donc oui, il y a la liberté qui est un idéal et notre cheminement qui est une réalité. En 88, franchement, je n'avais aucune idée qu'on pourrait un jour en reparler avec un recul et un chemin parcouru aussi important que nous aujourd'hui en 2019.
Votre frère, en 1988, a été arrêté, c'est ça ? Il s'est fait ensuite interroger, tandis que vous avez réussi à vous échapper.
C'était dans une des manifs, mais il y en avait une dizaine, quinzaine par an, donc ce n'était pas inhabituel qu'on ne rentrait pas à la maison comme prévu. Mais les interrogatoires nous ont accompagnés. Je me rappelais l'autre jour que à Bartholomiejska, j'étais aussi pendant ces fameux interrogatoires à la Stebeček. Donc oui, il y avait une présence de l'État totalitaire. Chacun qui dépassait a été appelé à rentrer dans les rangs ou bien il a été franchement décapité. C'était ce qui s'est passé avec nos élites dans les années 50 et c'était des élites à la fois intellectuelles ou industrielles ou politiques.
Quel était un an plus tard l'état d'esprit dans les rangs des étudiants, ces étudiants qui sont à l'origine de ces grands changements puisque ce sont eux qui ont organisé la première manifestation contre le régime?
Parmi les étudiants, dans les années 80, il y avait quand même des gens qui n'ont pas perdu le Nord. Ils ont peut-être eu des apparences tout à fait conventionnelles, mais ils savaient que le régime n'était pas sur place d'une manière juste. Et lorsqu'ils ont vu la brèche s'ouvrir, ils ont quand même marché dans cette brèche et ils ont ouvert la voie à toute la société. Et c'était à ce moment-là où ils n'ont pas hésité de prendre la relève à côté des dissidents qui étaient toujours quelque part à la frontière de la prison et de la liberté. Les étudiants nous ont quand même montré le tracé à faire. D'ailleurs, les étudiants dans l'histoire tchécoslovaque du XXe siècle étaient régulièrement sur les avant-gardes à la fois contre le nazisme ou bien dans la lutte contre le communisme totalitaire.
Et il le reste aujourd'hui encore, puisque ce samedi, donc la veille du 30e anniversaire, une nouvelle manifestation se tiendra, qui est organisée par l'organisation Million Quilli Pro Democratie, donc un million de moments pour la démocratie, une organisation qui a été mise sur pied par deux étudiants en théologie, ce qui veut dire aussi que donc les jeunes restent engagés.
Je trouve que cette initiative en soi est très positive parce qu'elle génère beaucoup d'émotions et d'accompagnement de la part des gens très divers et variés, à la fois des intellectuels, des jeunes, des plus âgés, des gens venant de la province. Et je trouve que c'est un moment quelque part formateur. Les gens se rendent compte que l'état de droit dans notre pays, le conflit d'intérêts majeur dans lequel se trouve le Premier ministre, ayant été entrepreneur de premier plan, ayant investi dans les journaux, dans les quotidiens, ayant demandé les subventions européennes, ayant été obligé de les contrôler lui-même comme ministre des Finances. Un ministre qui doit se contrôler soi-même, c'est quand même une absurdité dans la culture européenne de séparation des pouvoirs. Et même si ce Premier ministre a transféré les activités économiques à son épouse, les jeunes aujourd'hui considèrent que ce n'est pas assez et qu'il faut revisiter les choses. Et à mon avis, cet ethos de revisiter l'état actuel de la gouvernance en République tchèque, c'est quelque chose de tout à fait sain. D'ailleurs, c'est ce que prône aussi la Commission européenne dans ses rapports réguliers par rapport justement au conflit d'intérêts de notre Premier ministre. Donc, je trouve qu'il y a une résonance à la fois de l'autorité de Bruxelles, Commission européenne dans ce cas-là, et de la rue qui dit « arrêtez, il faut clarifier encore davantage des choses, il y a trop de choses qui sont contrôlées aujourd'hui par un seul homme ».
Est-ce que vous encouragez vos enfants, ou alors peut-être que ce n'est pas nécessaire, des enfants qui sont étudiants. Est-ce que vous les encouragez à participer à cette manifestation samedi ou aux manifestations qui se sont tenues précédemment?
C'est un peu difficile de les arrêter. Donc, ils sont branchés et moi, je vais plutôt être avec eux comme accompagnateur. Et je trouve que la période est grave parce que nous avons d'autres oligarques qui investissent dans les médias privés tchèques et je crois qu'il faut être vigilant. Cette présence dans les rues, la veille de 17 novembre 89, c'est pour moi un signe de vigilance et c'est pour ça qu'il faut être en éveil pour ne pas louper l'occasion qu'il y a des choses qui vont se passer. Les jeunes étaient toujours les précurseurs. Peut-être le sont-ils aujourd'hui également.
Merci, Pavel Fischer.
C'est moi.
C'était Pavel Fischer au micro de Guillaume Narguet. On passe à la deuxième partie de notre émission en français sur Radio Prague International. Et c'est en compagnie d'Alena Gebertova qui, avec son complice Václav Richter, vous passe en revue la presse tchèque de cette semaine.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
À l'approche du 30e anniversaire de la révolution de velours, on voit se multiplier les textes et les déclarations qui donneraient à croire que l'on n'a pas affaire à une fête, mais plutôt à un acte presque funèbre, constate l'auteur d'une note publiée dans la dernière édition de l'hebdomadaire Respect. Il réagit ainsi à ceux qui prétendent, comme l'a fait récemment par exemple le commentateur du journal des Nick N, que le temps est venu de ne pas se mentir et d'accepter qu'en 1989, la majorité des gens ne voulaient pas la démocratie, mais tout simplement vivre mieux. Le commentateur de Respect détaille.
Une telle description de novembre 1989 ne correspond pas à la vérité. C'est un des rares moments à être perçu par une majorité écrasante de personnes comme un événement positif. Les Tchèques ont souhaité et souhaitent la liberté, ce que les dernières données publiées confirment clairement. Dans une enquête effectuée par l'agence CVVM, près de 80% des personnes interrogées ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils préféreraient un retour au communisme. De même, ils ne veulent pas l'élimination du système parlementaire à l'instauration d'un système autoritaire.
Le problème dont souffre aujourd'hui la société tchèque se nomme crise de confiance. Selon le commentateur, les gens ont le sentiment qu'en cas de difficulté, il n'y a personne pour les aider, qu'il s'agisse de l'État ou des relations entre voisins. Mais c'est un problème moderne qu'il n'a rien à voir avec la réalité post-communiste, écrit-il.
Pour le commentateur de site Novinky.cz, la désillusion engendrée par la démocratie est un signe propre à l'Europe occidentale. Or, le fait que les Tchèques s'interrogent sur le sens de la liberté et de la démocratie est une confirmation de ce qu'ils font désormais partie de l'espace mental occidental.
Celui qui, en 1989, n'était pas de droite, n'avait pas de cœur. Celui qui, aujourd'hui, n'est pas au moins un peu de gauche est dépourvu de bon sens. Paraphrasant la célèbre déclaration de Churchill, tel est le titre d'un article publié dans le quotidien Hospodářské noviny de jeudi qui se penche sur le glissement politique subi au cours des 30 dernières années par les anciens leaders étudiants et une partie de la société tchèque.
Après 1989, le rejet de tout ce qui était de gauche était naturel, car les communistes ont entièrement discrédité l'idée de la gauche. Toute personne qui se serait alors déclarée sympathisante avec la gauche se faisait automatiquement étiqueter de sale communiste. La majorité de la société était alors à droite, car la droite symbolisait alors la liberté, l'initiative, les possibilités, la propriété privée, le social étant implicitement lié à la pauvreté et au manque de liberté. Il s'agissait d'un mantra partagé par l'ensemble de la société, dont les restes se font d'ailleurs sentir encore aujourd'hui.
En identifiant la pensée de gauche au marasme communiste, on a ignoré les perdants du système basé sur la libre concurrence. On a aussi oublié que certains termes comme étatique, communal ou commun ne sont pas forcément des mots vulgaires, constate le commentateur qui conclut.
Marginalisés, les plus démunis donnent désormais leur voix aux populistes. Il est bon de se demander si le réveil et le glissement d'opinion d'une partie de la société qui souhaite une démocratie authentique n'arrivent quand même pas trop tard.
S'attaquer aujourd'hui à Václav Havel, 7 ans après sa mort, est un exemple typique de la médiocrité tchèque. C'est ce que constate le chroniqueur de l'hebdomadaire Reflex en lien avec les critiques dont l'ancien dissident et ex-président tchèque fait l'objet, il rappelle.
Cela ne se discute pas. Václav Havel, défenseur déterminé de la liberté et de la démocratie, est à côté du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk, la plus grande figure de notre histoire du XXe siècle. Il est le symbole de la révolution de novembre 1989, car il fut le garant de ce que notre pays puisse avoir des élections libres et ensuite de l'instauration d'un système démocratique. Havel n'était pas un meneur classique des foules, car sa pensée était très structurée, voire trop compliquée pour celle-ci. En dépit de cela, il a réussi à attirer le public qu'il aimait et qu'il écoutait.
Havel était unique. Impossible d'imaginer, par exemple, que l'un de ses successeurs ait un jour, à l'instar de l'ancien président dramaturge, un bus au Congrès américain, conclut ainsi le commentateur du magazine Reflex.
Merci à Alena Gebertova pour cette nouvelle revue de presse hebdomadaire. Alena, vous en parlez. Dans son programme, il y aura une grande manifestation contre le gouvernement ce samedi dans la capitale tchèque. Une manifestation que vous pourrez suivre sur notre antenne ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Nous serons également sur la brèche tout le week-end car dimanche, c'est le jour de commémoration, le jour du 30e anniversaire de cette révolution de velours. Les journalistes de la rédaction française de Radio Prague seront sur le terrain. Et nous serons sur les réseaux sociaux pour vous montrer les plus belles photos, les moments les plus marquants de toutes ces cérémonies, de la manifestation de samedi également. Donc suivez-nous, vous le savez, sur radio.cz/fr, vous trouvez nos réseaux sociaux, à commencer par nos comptes Twitter et Facebook. En attendant de vous y retrouver, je vous rappelle également l'information sportive de cette fin de semaine, avec du football et la qualification pour le championnat d'Europe 2020 de la sélection tchèque qui a battu le Kosovo 2-1. C'était à Plzeň ce jeudi soir et donc la République tchèque est qualifiée avant même son prochain match prévu dimanche en Bulgarie contre la sélection bulgare. Félicitations aux footballeurs tchèques. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée où que vous soyez dans le monde.